grand ami du Centre Charlier, Chrétienté et Solidarité, nous avait donné cette même conférence à notre université d'Espagne, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, où nous étions cet été. Nous l'avons tellement adoré que nous avons décidé de la rééditer ici. Alors, comme vous le savez, la franc-maçonnerie est toujours d'actualité. Dans le journal présent qui est en vente à l'entrée, je vais vous lire le point qui concerne et qui montre à quel point c'est d'actualité. Le point s'appelle « Une secte au cœur de la République ». La fraternelle parlementaire qui cimente des parlementaires de différentes sensibilités politiques appartenant à toutes les obédiences de la franc-maçonnerie s'insurge contre le mauvais coup porté à la République et à la démocratie dans un communiqué publié au lendemain d'une réunion à l'Assemblée nationale sur les alliances dans les régions entre la droite et le Front National. L'interobédience qui ne communique pas au grand jour et devant le corps électoral la liste des frères participants à de telles réunions n'oublie pas de faire savoir aux frères absents que les principes républicains sont incompatibles avec l'idéologie d'intolérance, de xénophobie et de racisme propagée par le Front National. Donc, nous sommes vraiment au cœur de la République et Serge Becquet, on vous parler de cette secte. Je vous remercie.
Merci.
Pour commencer, je dois dire deux choses qui sont strictement personnelles. Il m'arrive d'avoir des cannes de toux qui sont spectaculaires, mais jusqu'à présent pas mortelles. Donc, ne vous affolez pas si vous voyez devenir écarlate, c'est pas grave, ça passe, et puis après je continue. En général, je garde mes esprits assez longtemps pour finir ma conférence. C'est un problème d'allergie, c'est pas dramatique du tout. La deuxième chose que je dois vous dire, pour couper court à toute ambiguïté ou à toute interrogation des personnes présentes sur les qualités que j'ai pour m'exprimer ce soir, et pour que certaines rumeurs, certains bruits soient une fois pour toutes accrédités, j'ai été franc-maçon pendant 5 ans. Donc je sais de quoi je parle. Ce que je le dis parce que j'ai été dans la boutique, je les ai vus travailler. Donc c'est pas du oui-dire, c'est pas ma concierge qui connaît quelqu'un qui a croisé un facteur qui a porté le courrier chez une dame qui connaissait quelqu'un qui avait fréquenté un franc-maçon. C'est moi, j'étais dans la boutique, donc j'ai vu. Je suis entré pour des raisons spirituelles, enfin je me croyais spirituel, et j'en suis sorti pour des raisons que je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que je croyais. Voilà. Donc, les personnes qui éventuellement seraient là pour me prendre en défaut ou pour peuvent déjà rengainer cet argument, il n'est pas recevable. Je ne tente pas par oui dire. Je vais vous épargner l'historique de la franc-maçonnerie, je pense que ça intéresse peu de monde, et qu'au fond, ça n'a pas beaucoup de... ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Disons très rapidement, on peut considérer que la franc-maçonnerie existe à peu près depuis le XVIIe siècle, qu'elle a été réellement... qu'elle est née en Angleterre, pense-t-on, qu'elle a été formalisée au début... par un protestant français, fils de protestant français émigré en Angleterre qui s'appelait des Aguliers. Et ce qui est amusant à noter, si on croit au signe, c'est que la franc-maçonnerie, dès son origine, repose sur une imposture. C'est-à-dire que pendant des siècles, enfin des décennies en tout cas, et au moins pendant deux siècles, on a célébré comme le fondateur, organisateur, de la franc-maçonnerie anglaise, un type qui avait été inscrit dans la franc-maçonnerie tout à fait par hasard, et qui est allé donc pour apprendre qu'il était reçu maçon, et qui est retourné 30 ans plus tard pour dire qu'il ne voulait plus appartenir à l'atelier. Et comme le nom de ce type, que j'ai d'ailleurs oublié, ça n'a aucun intérêt, était un nom un peu intéressant, on a décidé que c'était lui le fondateur de la maçonnerie. En fait, il est allé deux fois pour y entrer et pour en sortir. À partir de ça, il faut savoir que la franc-maçonnerie est une organisation tout à fait typique des organisations modernes, c'est-à-dire que c'est un tas d'imbéciles manipulés par une poignée de crapules. Voilà. Pour résumer, je pourrais très bien arrêter la conférence maintenant, parce qu'en gros, j'en savais autant que moi. quelle est l'utilisation de ce tas d'imbéciles manipulés par une colère crapule? Ben, c'est toujours la même chose, il s'agit d'une des multiples formes de la présence de Satan dans le monde, qui consiste à essayer de combattre le Créateur avec ses propres armes et de retourner en quelque sorte, d'inverser l'œuvre divine. Alors ça c'est le grand projet de la franc-maçonnerie, mais il est évident que si vous posez la question à un franc-maçon de bonne foi, ce qui s'en fait fou, il y en a certainement d'ailleurs en plus, c'est pas ce qui vous expliquera. Ce qui vous expliquera, c'est qu'il faut travailler au bonheur de l'humanité, au progrès humain et à la formation des hommes. Alors, à partir de là, on a bâti à la fois tout un légendaire et tout un appareil symbolique. Le légendaire, c'est que la franc-maçonnerie serait l'héritière des architectes, enfin des architectes, des premiers architectes de l'histoire, lesquels premiers architectes sont en quelque sorte dans le prolongement de la volonté divine de créer une humanité harmonisée. Les humains, il fallait les faire vivre dans des villes, les villes devaient être construites par des hommes étaient des architectes. Les architectes sont donc des gens qui ont concouru au bonheur de l'humanité créée par Dieu, etc. Donc vous voyez que les francs-maçons n'hésitent pas à se réclamer d'une grande antiquité, puisque le premier franc-maçon, finalement, c'était Caïn, fils d'Adam, fondateur des villes, donc déjà ça remonte assez loin, il faut dire. À part nous qui remontons à Adam, la franc-maçonnerie, pratiquement personne n'est plus ancien. À partir de là, les francs-maçons vous expliquent qu'ils sont également les descendants des constructeurs de pyramides, qui sont également les descendants des constructeurs de cathédrales, qui sont les héritiers de la tradition compagnonique. Tout ça est naturellement totalement faux, ça ne repose sur rien. Et d'ailleurs, Oswald Wirth, dans ses travaux sur la franc-maçonnerie, lui, qui était un des fondateurs de la franc-maçonnerie spéculative du art moderne, reconnaît que tout ça n'a aucun sens, que ça n'a aucun fondement historique. On ne sait absolument pas, en réalité, d'où vient réellement la maçonnerie. On voit bien que c'est un groupe de gens, un groupe d'aristocrates intellectuels qui ont essayé de récupérer des oripeaux symboliques à droite à gauche et de monter une espèce de légendaire et une espèce d'appareil symbolique. Tout ça avec une méconnaissance formidable des sujets. Par exemple, il y a beaucoup de mots maçonniques qui sont des mots d'hébreu mal prononcés, voire même des mots d'hébreu lus de gauche à droite, alors que l'hébreu se lit à l'envers. Donc tout ça n'a aucun sens réel. Tout ça n'est pas du tout fondé. Ce qui est fondé, c'est qu'un certain nombre de gens ont créé un système qui a pour objet d'investir et de subvertir les sociétés humaines, au sens des groupements sociaux humains, des associations, des mouvements politiques, des mouvements culturels, des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux, des mouvements... chaque fois que des hommes se réunissent, les francs-maçons essayent de s'introduire dans cette réunion pour être présents, pour avoir... Alors pourquoi ? Pour avoir un pouvoir. Et en réalité, c'est assez curieux, parce que si on cherche le sens réel de leur travail, on s'aperçoit que comme tous les trucs qui sont des sens démoniaques, ça tourne en rond. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent avoir un pouvoir pour obtenir du pouvoir qui leur donnera plus de pouvoir en vue d'avoir encore plus de pouvoir. Ce pouvoir ne servant au fond à rien, n'étant appliqué sur rien, sinon sur une transformation de la société qui leur donnera encore plus de pouvoir sur la société. Alors on voit que les francs-maçons sont présents dans tous les domaines de l'activité humaine et de plus en plus dans les domaines modernes. Alors pour parler de la situation contemporaine, il est parfaitement clair que ce qui se passe en ce moment en France, c'est le résultat d'une opération maçonnique à double détente. D'une part, des ateliers français, je dirais, si on peut parler d'ateliers français, enfin d'obédience française, c'est-à-dire essentiellement le Grand Orient de France, et d'autre part, d'une obédience internationale qui est la loge d'Edna Hybrid, qui est une organisation maçonnique raciste, puisque si on n'est pas juif, on ne peut pas adhérer au Maghreb. Donc, quand vous fondez une société qui est une société dont la base même est l'exclusion raciale ou confessionnelle, appelez ça comme vous voulez, on ne va pas entamer ce soir le débat sur la question de savoir si être juif c'est appartenir à une race, à une confession, à un peuple, à une nation, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est certain, c'est que les juifs, quand ils sont attaqués, ils disent qu'ils sont attaqués pour des raisons racistes, donc ça veut dire qu'eux se considèrent eux-mêmes comme une race, et par conséquent, s'ils excluent des gens de mouvements ou d'associations auxquelles ils appartiennent, c'est bien un comportement raciste. Donc, les Naïbris sont une organisation raciste. Et on sait, mais on va y revenir, que cette organisation raciste a décidé de mener la guerre contre le Front National depuis longtemps, et on va s'interroger pourquoi, contre le Front National, contre le mouvement national, contre les idées nationales, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est la même chose. Alors j'ai l'habitude de dire que, ça, en général, ça choque ou ça amuse, et ça choque et ça amuse, j'ai l'habitude de dire que la franc-maçonnerie, c'est une fabrique de juifs synthétiques. C'est une organisation qui a pour but de prendre des gens qui ne sont pas des juifs et de les mettre intellectuellement dans la situation, dans l'idée qu'ils sont d'une certaine manière soumis au même danger et aux mêmes aléas que les juifs. Je m'explique. Les juifs appartiennent au peuple élu. Les francs-maçons se considèrent comme un peuple élu, se considèrent comme un groupe d'élus. D'ailleurs, il y a un des grades maçonniques qui est élu Cohen. On ne peut pas faire mieux dans le genre. Ça veut dire qu'ils se cohortent, donc ils s'élisent entre eux, ils se choisissent en fonction de critères qui, au lieu d'être des critères confessionnels ou ethniques ou raciaux ou nationaux, sont des critères d'appartenance intellectuelle. Donc là, il y a encore une fois une espèce de système qui consiste à dire les différences entre les hommes ou les catégories naturelles entre les hommes qui existent, nous les reproduisons, nous qui sommes aussi forts que Dieu, puisque nous sommes capables de créer comme Dieu, et nous reproduisons ces catégories. Et nous considérons que la franc-maçonnerie constitue une forme de peuple élu, puisque les gens qui y sont ont été élus par les gens qui y ont été élus par ceux qui y sont. D'autre part, il est évident que, il suffit de lire la littérature spécialisée, les juifs considèrent qu'ils sont le sel de la terre, ils le disent, souvent, c'est courant, ça fait partie du discours traditionnel. Les francs-maçons considèrent qu'ils sont le sel de la terre, qu'ils sont le sel de la société, qu'ils sont à la fois l'élément moteur, l'élément intellectuel, la franc-maçonnerie est plus intelligente, elle est plus cultivée. Quand vous parlez des francs-maçons, ils vous expliquent que chez eux, il y a des avocats, des hauts fonctionnaires, des médecins, des architectes, des artistes, des peintres, des musiciens, ils représentent vraiment la crème de l'élite. Bon. Donc, le sel de la terre. Et la troisième chose, c'est le sentiment de persécution qui est le ciment agglomère les membres de la maçonnerie comme les membres de la communauté, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment la conviction que le monde entier les déteste et que donc ils doivent se tenir les coudes et faire face à l'hostilité du monde entier. Et ça, c'est le cas naturellement. Oui, il faut bien reconnaître que depuis un certain temps, le monde entier leur a pas donné beaucoup de raisons de changer d'avis. Et c'est le cas des francs-maçons qui disent aussi nous sommes persécutés. Alors là, on est dans le cœur de l'inversion, parce que autant les juifs sont fondés à dire que finalement, un peu partout, on leur fait des crosses, autant les francs-maçons, non seulement on leur fait des crosses, mais ils sont tout puissants à peu près partout. Ils font ce qu'ils veulent, et ils sont vraiment. On ne peut pas être. C'est difficile d'être moins persécutés que des francs-maçons. Par bonheur pour eux, entre 40 et 44, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit que la franc-maçonnerie, ça commençait à de la faire et qu'il fallait les liquider. Moyennant quoi, on leur a cherché des coups dans la tête. Je dois dire, je relisais récemment, tout à l'heure d'ailleurs, pour préparer cette conférence, le recueil des documents maçonniques 40-44 que Maliarakis avait publié il y a une quinzaine d'années, et on s'aperçoit à lire ça, que la prétendue persécution des francs-maçons par Vichy est une énorme balançoire. C'est totalement bidon. Les francs-maçons étaient protégés, les réseaux maçonniques jouaient encore complètement, et que ce soit devant la justice, devant la haute fonction publique, en politique et partout, les francs-maçons, sauf certains qui ont été déportés pour d'autres raisons, mais en général, les francs-maçons n'ont pas eu de gros problèmes à affronter pendant l'occupation. En tout cas, ils ont été beaucoup moins emmerdés que les juifs, ça c'est tout à fait clair. Mais ça ne les empêche pas aujourd'hui de dire qu'ils ont souffert et qu'au nom de ça, ils méritent aujourd'hui le respect et la considération de leurs concitoyens, alors que jusqu'à présent, informé, ceux qui étaient francs-maçons en 1940 ont disparu aujourd'hui, et comme la franc-maçonnerie ne s'hérite pas, eh bien ceux qui vivent aujourd'hui n'ont rien de commun avec ceux qui vivaient il y a 50 ans. Donc ils ne peuvent pas revendiquer, il ne peut pas y avoir de fils de déportés francs-maçons. Il n'y a pas de franc-maçon, fils de déportés francs-maçons, donc ce n'est pas une qualité qui s'hérite par la naissance. En revanche, c'est un système en loge féminine, je dois le dire, d'un grotesque achevé.